Flagrant Soul, cap sur l'âme du groove.
You got it.
Bonsoir à tous, vous êtes sur Campus Paris, il est 21h, vous écoutez Flagrant Soul, l'équipe au grand complet, retour de Simon, ouais. Qui était momentanément absent au début de mois, mais qui nous revient.
En pleine forme.
Ça va les gars ?
En pleine forme, un peu fébrile là, mais quel timing hein, de...
On doit quand même applaudir le timing au cordeau de PSG et d'Arsenal, puisqu'ils ils ont fini la finale 10 secondes à 12 secondes avant notre prise d'antenne. Donc nous avons pu voir par la fenêtre du voisin la fin du match, ce qui était très appréciable. Quel est le mood de votre côté? Alors peut-être on va commencer avec toi Gaëtan, tu reprends le micro un petit peu.
Ah oui, bah, volontiers, juste pour vous parler du concert auquel j'ai assisté hier soir de Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, qui est venu donc deux soirs à Paris à l'Alhambra défendre son projet solo, un album de jazz sur lequel il reprend son instrument de prédilection avant la basse, la trompette. Donc il a alterné toute la soirée entre les deux instruments. La bonne surprise, c'est que Thom Yorke, en guest sur l'album, est venu chanter trois morceaux.
Sympa, stylé.
Dont une énorme reprise de Got to Give It Up de Marvin Gaye.
Ah oui, j'ai vu les images, ça avait l'air fou.
Fou. Ouais. Pour l'anecdote, Brad Pitt, le vrai, hein, pas celui qui a arnaqué la dame qui est venue parler dans 7 à 8, était dans le public, dans le balcon juste au-dessus de nous, comme quoi l'Alhambra était hier soir The Place to Be.
Peut-être qu'il y avait aussi le Brad Pitt qui avait arnaqué la dame, on ne sait pas.
Mais... Sauf que moi, j'y étais pas, quoi.
Bah non, mais les vidéos ont l'air. Ça donnait envie,
ah,
quoi.
Ouais. Ouais.
Alors moi mon mood il reste un peu comme récemment électro puisque je prépare activement la nouvelle date Flagrant Machine que je vais faire avec la Mijos, donc un petit mix électro night long au Vice Versa 28 rue Keller dans le 11e, et ce sera donc vendredi 5, donc vendredi prochain. On vous attend nombreux pour kiffer avec nous.
Eh ben écoute, on sera là. Ce soir, moi, j'ai tout misé sur New York dans le mood board, la glande aussi sur le canapé, puis l'histoire Flagrant Hotel mythique. Donc la ville d'immigration très riche musicalement. J'ai choisi un titre de Jetix qui s'appelle Jive Turkey. Presque Hotel California, c'est bizarre.
Mais carrément.
Mais c'est un, ouais.
C'est un morceau de compas haïtien du groupe Jetix, qui a fait une quinzaine d'albums en une quarantaine d'années. Ils ont commencé en 74, je crois, et c'est vraiment la référence du compas haïtien. Vous reconnaîtrez donc le riff de saxophone de Gérard Daniel, surnommé T. Gérard, parce qu'il a le même prénom que son père. Et puis c'était l'ex-leader de ce groupe new-yorkais, des immigrés qui étaient partis à New York, et il était surnommé le préfet de Brooklyn. Il s'est éteint tragiquement en 2018, mort de froid, et oui, ça arrive, dans un atelier non chauffé. Les désastres de la précarité énergétique. Donc voilà, c'est. Alors, est-ce qu'on peut parler de plagiat? Est-ce que c'est un clin d'œil ou une inspiration?
Bah, t'as vérifié les dates? Lequel a été fait avant lequel?
Hotel California a été fait avant leur
morceau. Ouais. Ah, bah, alors, Simon, tu ne me contrediras pas, tu sais que j'écoute beaucoup de musique antillaise des années 70. Il y a souvent des reprises, des petites reprises de thèmes comme ça, notamment avec les cuivres, et. Faut quand même dire que ça rend bien à chaque fois.
Ouais. Voilà. Ça rend bien. En fait, l'émission va être assez macabre pour moi ce soir.
Donc, restez avec nous.
Je préfère mettre quelque chose d'assez chaleureux et solaire.
Thank you.
to mama and tell me all the things you hear. Tell me your suspicions, mama.
Donc voici un single pour vous mettre un peu dans l'ambiance pré-estivale. L'auteur donc c'est Tommy Richman, coupable en 2024 du Million Dollar Baby, le hit qui avait affolé les plateformes de streaming, devenu viral alors que rien ne prédestinait à ce succès. Après pratiquement un an de silence, donc Tommy revient avec ce Change, production toujours aussi groovée et très solaire, peut-être les prémices d'un album à venir, à suivre je dirais.
La vie selon Flagrant Soul ce soir, alors je dois dire quand même, on aurait voulu choisir le thème parfait pour illustrer cet épisode caniculaire qu'on vit actuellement, qu'on n'aurait probablement pas fait mieux, ouais, puisque nickel. Le thème ce soir c'est quel morceau pour glander sur son canapé. Alors on parle de ces moments de fainéantise où la jauge d'énergie est à zéro, ces instants de repos contemplatif où notre petit monde tourne au ralenti dans un tel silence qu'on pourrait entendre pousser ses cheveux. Alors pour faire l'éloge de notre paresse, on vous propose chacun un morceau qui illustre ces moments de flemme ô combien nécessaires pour apprécier pleinement le quotidien dans un monde qui va trop vite. Et c'est toi Bertrand qui commence. Qu'est-ce que tu nous fais écouter alors ?
Alors moi je vais vous faire écouter un morceau de Love Age et ça s'appelle To Catch a Thief.
I feel that you shouldn't get involved in an intimate relationship until you are emotionally mature enough to handle it. Totally. Able to cope with your feelings and your sexuality without guilt, inhibition, or phoniness, but with love, tenderness, and honesty.
When I knew I had to be with you, that's when I knew if I didn't, I'd be through. To end my grief, I'd have to catch a thief. Your love is my relief, my love is your relief.
To make you mine, I'll take
c'était Love Age, projet musical initié par l'excellent producteur Dan The Automator. Vous aurez reconnu la voix de Jennifer Charles, la chanteuse d'Elysian Field, new-yorkaise. Non, je suis très new-yorkais ce soir. Et donc ce sont des potes qui se connaissent, hein. Il y a aussi Mike Patton qui chante sur cet album. Ils ont bossé ensemble, notamment sur les compilations Great Jewish Music, notamment celle de Gainsbourg, que je vous recommande, qui est très intéressante. C'est un projet qui a une couleur un peu hip-hop, on pense à Massive Attack, avec un peu de sensualité. On pense là plutôt à Barry White et à Serge Gainsbourg. Et d'ailleurs, comme tu le faisais remarquer, la pochette de l'album est inspirée
très
de la pochette
inspirée,
de Gainsbourg.
C'est ça.
Donc voilà, et d'ailleurs, on y voit un singe, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et le son qui est produit me faisait penser un peu à un instrument brésilien, vous savez, la cuica, qui est un peu un espèce de cri de singe.
Le tambour qui parle.
Ouais, c'est ça.
Talking drum.
Oui, avec ce petit morceau aussi, un petit peu coucou de temps en temps. Une ritournelle sensuelle pour bien glander sur son canapé. Donc, alors, Love Age, c'est une double référence. La première, c'est love, forcément, c'est proche du mot anglais love, donc c'est l'amour. Et puis, il y a une deuxième référence, il faut savoir que Love Edge, c'est aussi le nom donné par la Société québécoise des amateurs d'herbes à une plante censée favoriser l'érection.
Intéressant.
De quoi se lever de son canapé.
On apprend énormément de choses ce soir.
On reste dans le thème de l'amour.
Voilà.
D'accord, donc posé sur son canapé, mais quand même un peu actif. Quoi.
Oui, c'est ça, c'est un canapé...
Voilà, c'est un canapé lit. Ouais. Alors moi, je vais vraiment être sur un mode très, très, très glande. On va écouter This Old Dog de Mac DeMarco. Sometimes my love may be put on hold. Sometimes my heart may seem awful cold. These times come and these times go. As long as I live, all you need to know is this old dog ain't about to forget. All we've had and all that's next. Long as my heart's beating in my chest, this old dog ain't about to forget. Often a heart tends to change its mind. New day decides on a new design. A new day gets set on another way. As long as I live, all I've got is. This old dog ain't about to forget. All we've had and all that's next. Long as my heart's beating in my chest, this old dog ain't about to forget. Pour illustrer l'art de la glande, qui de mieux qu'un des plus fiers représentants actuels du slacker rock, qu'on pourrait traduire littéralement par rock de glandeur, j'ai nommé Mac DeMarco. Alors depuis ses débuts en 2008, le troubadour canadien y cultive cette image de nonchalance avec autant de brio que d'application. Casquette vissée sur la tête, air un peu ahuri et dents du bonheur, le hipster flemmard y cache bien son jeu, hein, parce que il s'avère quand même être un mélodiste d'une redoutable efficacité. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu sa discographie, mais c'est quand même très très qualitatif dans ce style un peu lo-fi, très voilà, très proche de la maison, quoi. Mm. Et sur ce This Old Dog pas agressif pour un sou, on retrouve cet art de la flemme qu'il représente si bien. Et à l'écoute de ce chant tout en douceur, de ces accords de guitare mollasson et de ces nappes paresseuses comme distordues par la chaleur, je m'imagine bien vautré sur le canap, pantalon de jogging taché et vieux t-shirt effrité, grattant...
Taché, carrément.
Bah oui, le t-shirt du dimanche, tu sais. Voilà. Grattant paisiblement une guitare sèche posée sur mon bid à bière en fixant le plafond. Bref, la glande dans ce qu'elle a de plus pur.
Moi, je t'imagine bien sur le canapé.
J'étais en train de visualiser aussi, c'était pas mal.
mais même pas sur le canapé, sur le tapis ou sur la moquette, quoi. Parce que c'est le canapé, il faut que tu produises un effort pour te soulever, tu vois.
Non, mais c'est-à-dire que tu t'es levé de ton lit, tu vas jusqu'au canapé et tu n'en bouges plus de la journée. C'est ce genre de journée.
La moquette, c'est un peu dur quand même.
Ouais, avec des gros poils.
Tu vas être sur quelle ambiance, toi, Simon?
On reste dans la même ambiance avec ce Mac Miller, Small Words.
Yeah, yeah. The world is so small till it ain't. Yeah, I'm building up a wall till it break. She hated when I call and it's late. I don't wanna keep you waiting. I hope I never keep you waiting. Yeah. I think I know it all, but I don't. Why you always at the mall when you're broke? Yeah. And I just wanna ball, maybe dunk, but I never been tall. Yeah. I might trip, I never fall. God knows I came close.
Don't try this at home.
I know I probably need to do better. Fuck whoever, keep my shit together. You never told me being rich was so lonely. Nobody know me. Oh well, hard to complain from this 5-star hotel. I'm always in a rush, I've been thinking too much. But keep it on the hush, no one need to know, just us. That's really all it takes. We don't need nothing but today, 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 today. The world is so small, till it ain't, till it ain't, till it ain't, till it ain't. I'm building up a wall, till it break, till it break, till it break, till it break. She hate it when I call, and it's late, and it's late, and it's late. I don't wanna keep you waiting,
I don't wanna keep you waiting.
I hope I never keep you waiting,
I hope I never keep you waiting.
Playing till I'm out of moves. No need for shame, I get more peace at slow speeds. Go beat the game, young control freak. It's cold in my veins, I'm below freezing. Snow season
made me.
They know that I so need my space. Don't wanna grow old, so I smoke just in case. She say that I glow below the waist, and the stroke is just so PGA. All I got is little bit of space and time, drawing shapes and lines of a world we made. Tomorrow may be right around the corner, but I swear it's gonna be worth it if I make it wait. There's somewhere above you, keep reaching up. That's really all it takes. We don't need nothing but today. Today, today, today.
Voici ce que j'appellerais une balade de canapé. Un titre pour se laisser porter à ne rien faire avec cette voix si réconfortante de Mac Miller et son grain si particulier. Cette voix qui vous dit inexorablement flemme et cette joyeuse mélodie à la guitare qui vous invite à l'aventure, au voyage dans un monde si petit, small worlds, monde qui fait la taille d'un canapé. Alors vous êtes heureux, plongé dans cette oisiveté colorée, quoique... Je dirais plutôt une oisiveté un peu trompeuse, car teintée d'une certaine mélancolie, parce que nous sommes avec Mac Miller et que chez cet artiste, auteur-compositeur originaire de Pittsburgh, la mélancolie est présente partout dans son œuvre, comme on traîne un vieux doudou usé et râpeux. Mélancolie insidieuse, quand on croit voir une certaine plénitude, dévastatrice aussi quand elle l'emporte dans une consommation de drogue effrénée, qui aura sa peau à l'âge de 26 ans, quelques mois seulement, à peine après la sortie de...
Pas les mêmes drogues que ce dont tu parlais.
Non, non. Oui, donc quelques mois après la sortie de ce Swimming dont est extrait de ce Small Worlds. Voilà, une fin assez triste.
Fin assez triste, mais un sujet qui reflétait bien l'ambiance du moment. L'heure est au vote. Alors, quel morceau idéal pour glander sur son canapé, Bertrand ?
Moi, j'étais plutôt parti sur Mac DeMarco.
Yeah.
Donc plutôt pour toi.
Yes.
Ben en fait, moi j'ai pas pensé. Je suis tellement entré dans ce truc de flemme.
Ben on va demander à Gaëtan.
Allez, t'as la flemme de voter.
Alors moi, j'explique mon vote. Je connaissais Mac DeMarco et Loved, que j'adore. Donc je vais voter pour Simon pour Mac Miller.
Moi j'ai bien aimé Loved.
Voilà. Loved. Et moi je vais voter pour toi, Simon. Ça fait donc Simon qui gagne. 3-1 si je ne m'abuse.
Eh ben tu payes l'apéro. Hein,
ah, je paye l'apéro après la victoire du PSG. De toute façon.
Magnifique.
Yeah, this court is now in session.
Here come the judge. Here come the judge. Everybody know that he is the judge.
Condamné, je décline votre identité. Nom Nino Ferrer de votre vrai nom Agostino Ferrari, lieu de naissance Gênes, Italie. Occupation musicien, auteur, compositeur, interprète de variété. Nino Ferrer, vous purgez actuellement une peine suite à une condamnation pour outrage à la chanson française. En cause, les paroles absurdes et un petit peu bêtes de certains de vos morceaux comme Le Téléphone, Oh et un bon ou encore Mamadou Mémé, qui vous ouvrirent les portes du succès commercial en écornant votre intégrité artistique. Condamné Nino Ferrer après des années de purgatoire artistique, le tribunal de flagrant de soule réexamine votre cas pour statuer sur l'opportunité d'une remise de peine pouvant aller jusqu'à une remise en liberté immédiate. Dans le respect du principe du contradictoire, nous entendrons le réquisitoire de l'accusation, puis la parole sera donnée à la défense. Monsieur le procureur, c'est à vous.
Vous êtes bien sérieux, monsieur le président, ce soir.
Le poids de la justice.
Là, l'heure est grave. Et je pense que, si je peux me permettre, monsieur le président, j'aimerais reformuler un peu la question qui agit ce soir votre tribunal, afin de mieux éclairer notre audience sur les circonstances qui ont entouré la carrière de ce grand artiste que fut Nino Ferrer. Et donc, je reformulerai la question ainsi. Mais qui a donc tué Nino Ferrer ? Les défenseurs de la cause animale, qui n'ont jamais bien apprécié que M. Ferrer harcèle ce pauvre lévrier afghan, Mirza, incapable de lui témoigner un peu de douceur, à moins que ces mêmes défenseurs ne soient jamais vraiment remis de la torride relation entretenue avec par M. Ferrer avec l'idole de leur vie, à savoir Brigitte Bardot. Nous pourrions également explorer la piste des bénévoles de la société de défense des curcubicacées, qui n'auraient pas apprécié que notre célèbre parolier ne réduise leur petit légume vert favori à une fantastique farce musicale, à se faire trémousser et tordre de rire des générations d'amoureux de la charcuterie et de leur raclette. Mais non, monsieur le président, la réponse se trouve autre part, car voyez-vous, c'est bien triste à dire, mais monsieur Ferrer est lui-même coupable de sa propre mort. Bien évidemment, nul n'est prophète sans ignorer la loi. On est bien d'accord, cette phrase ne veut strictement rien dire, mais je la trouvais assez bien tournée dans ce réquisitoire. Tout ça pour vous dire, en parlant de mort, je ne souhaite en aucun cas que ce réquisitoire ne soit prémonitoire, même si tout le monde le sait ou l'ignore peut-être. Nino Ferrer a tiré sa révérence en 1998 en se tirant un coup de carabine dans le cœur.
Il s'est libéré tout seul alors.
Voilà, mais là n'est pas la question, puisque votre tribunal, monsieur le président, n'est point là pour juger la mort clinique de monsieur Ferrer, mais bien sa mort artistique. Qu'est-ce qui a bien pu faire que cet artiste de génie, amoureux de jazz, joueur de contrebasse reconnu dans sa jeunesse et promis à faire déferler la vague rhythm and blues en France dans les années 60, n'a jamais réussi à gagner sa place au panthéon musical français, jamais reconnu à sa juste valeur, se baladant entre étiquette mi-comique, mi-artistique? Eh bien, Nino Ferrer en est certainement le propre responsable, s'étant tout simplement perdu dans la liberté musicale qui s'est octroyée, incapable d'assumer ses tubes intemporels qui ont marqué à jamais le public hexagonal, incapable d'assumer sa popularité, sa fulgurante réussite accompagnée de belles femmes et de belles voitures, expérimentant à droite à gauche sans non plus l'assumer pour revenir à sa sensibilité musicale. Première, le jazz et les musiques brésiliennes, finissant par se réfugier dans une bâtisse dans le Lot qu'il passa des années à retaper et couper du monde. Nino Ferrer, donc l'éternel insatisfait, et à ce titre, quelle est la meilleure illustration et la preuve la plus irréfutable? Eh bien, c'est ce morceau, « Je veux être noir », paru en 1966, que je vous propose de découvrir.
You wish on the cat. Hey, 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 you drop Monsieur James Brown. S'il vous plaît, dites-moi comment vous faites. Monsieur Charles, Monsieur King, Monsieur Brown. Moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous. Mais je ne peux pas grand chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ne va pas. Monsieur Phobus, hey, 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 dis-moi comment les blancs font pour vendre les nègres à l'Argus et pour en brûler de temps en temps. Et moi je fais de mon mieux pour ne pas y penser. Je me sens très souvent très très embarrassé par la couleur de ma peau qui me démoralise un petit peu. Les élus, et hey, vous les simples d'esprit, vous qui chantez tout de blanc vêtu dans les verts pâturages près de lui, dites-moi s'il vaut mieux pour entrer dans ce royaume avoir plutôt la peau noire ou plutôt la peau jaune, et si le blanc n'est pas une couleur déconseillée parmi vous.
Alors, c'est l'histoire d'un mec qui s'est retrouvé enfermé par le succès qu'il n'estimait pas, dans un style de chanson qu'il n'aimait pas. En 67, il s'exile en Italie pendant 3 ans pour retrouver sa création et se sentir un peu mieux dans sa peau. Il a toujours vécu entre plusieurs pays. Il est d'origine italienne, puisqu'il s'appelle Agostino Arturo Maria Ferrari. Il aime les belles voitures, effectivement, mais plutôt les Rolls que les Ferrari. Et donc, il a toujours été un peu balancé entre différents pays, que ce soit la France, que ce soit l'Italie, que ce soit même Nouméa, où il a grandi quand il était petit, là, en Nouvelle-Calédonie. Et finalement, il a été bien nulle part, mais il s'est toujours un peu cherché. Et donc, quand il retourne en Italie, bah, il veut faire les choses différemment. Et donc, il veut produire son album, parce qu'à l'époque, il avait fait surtout des 45 tours. En France, on faisait pas trop d'albums, on sortait plutôt des 45 tours. Et donc il revient en France 3 ans plus tard, il sort l'album Métronomie, et qu'il désigne un peu comme son premier album et son œuvre la plus ambitieuse. Son opéra est un album avec toute une réflexion sur des textes engagés pour l'écologie, par exemple, et puis sur aussi la transgression avec le titre Cannabis, où il parle de drogue, avec des super arrangements, mais malheureusement, ben voilà, c'est pas le succès. Le showbiz lui tourne le dos, puisque ce qu'on attend de lui, c'est ce qu'il a fait au début de sa carrière, malheureusement.
Et ça, il ne le vivra pas très bien. Et c'est pour ça qu'ensuite, il se retirera à la campagne, dans sa maison, qui s'appelle la Taillade, puisque c'est là qu'il avait voulu se tailler et s'éloigner justement de tout ce show business qui lui sortait par les yeux ou par le nez. Et donc il était vers Cahors, à Montcuq exactement, que vous connaissez peut-être si vous avez vu Le Petit Rapporteur.
Monsieur Desproges.
Voilà.
Avec un magnifique sketch de Daniel Prévost.
Et donc en 74, il sort l'album Nino et Radia, d'où sont extraits d'ailleurs Moses et Mint Julep que j'ai choisi, et où il y a aussi le titre South, que vous connaissez sous le nom Le Sud, la fameuse chanson assez triste. Elle est d'abord sortie en anglais d'ailleurs, et donc il la sort avec sa muse de l'époque qui s'appelle Radia Fry, et qu'on a retrouvé sur le titre Six Sex and de Gainsbourg, où elle chantait. Et puis c'est la mère de la chanteuse Mia Fry d'ailleurs. Donc c'est une américaine immigrée en France. Et donc Nino Ferrer, c'est pas le chanteur fantasque que nous a vendu le showbiz, c'est aussi des chansons sensibles, tristes et mélancoliques. Donc bien sûr, comme je disais, on pense chanson Le Sud, que je n'ai pas choisie aujourd'hui, puisque vous la connaissez tous, même s'il y a des superbes versions que je vous encourage à écouter. Et puis il y a aussi une reprise que tu connais peut-être de Guts, non ça ne dit rien, une reprise tropicale que je te conseille d'écouter, que tu pourras peut-être mettre dans ta playlist, dans un mix.
Vous essayez de soudoyer monsieur le président là quand même.
Laissez parler la défense, hein. Elle ne vous a pas coupé, ne le coupez pas s'il vous plaît.
Donc voilà, moi j'ai choisi de vous faire découvrir ce soir un morceau où on sent bien cet héritage de jazz. Ça s'appelle La Rua Madurera. Alors c'est un morceau de bossa nova, vous allez voir. C'est le guitariste Daniel Beretta qui a composé la musique en décembre 1968, quand la France était un petit peu à feu et à sang. Et puis au niveau des arrangements, c'est l'excellent Michel Colombier qui a réalisé les arrangements de cette chanson. On se croirait au Brésil, et les paroles sont assez tristes, mais comme vous le verrez, c'est un morceau magnifique qui dénote complètement de cette carrière, de ce début de carrière qui nous a beaucoup fait rire.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer. Pour si peu de temps, et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour, et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais. Taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée.
Alors le choix, en fait, j'ai l'impression que le choix n'est pas si difficile que ça, parce qu'il y a quand même des arguments qui sont très communs entre vos deux réquisitoires ou plaidoiries. C'est ce côté bien nulle part, éternel insatisfait. On parle d'un écorché vif qui est brillantissime, qui malheureusement c'est déjà bien de passer à la postérité pour quelque chose, quelle que soit cette chose. Alors certes des chansons comiques, voilà, mais c'est vrai que
dadaïste,
voilà, doudouiste potentiellement, mais en tout cas c'est vrai que sa discographie est beaucoup plus fournie et riche et virtuose que ce qu'on imagine.
Exactement, ouais.
Et pour toutes ces raisons là pour moi ça me paraît important de rétablir un petit peu l'importance historique de cet artiste dans le panorama musical français, comme tu le disais Simon, premier à faire c'est vraiment pour moi le premier soulman français. C'est le soulman français. Quand on écoute certains de ses morceaux des années 60, pour moi la prod derrière c'est du Stax, hein, pour un peu anticiper sur ce dont je vais parler tout à l'heure. Mais il y a une qualité artistique folle, et La Rue Madureira en fait partie. Je vais statuer techniquement pour la défense, donc remise de peine, libération immédiate, c'est sûr. Sortie de ce purgatoire artistique pour cet immense artiste, je pense qu'on adore tous en fait. Voilà. Et du coup, on va écouter le morceau du vainqueur. On va écouter un petit extrait de Mint Julep.
C'est ça.
So we're doing that Mint Julep? Yeah. Very heavy, it is very heavy.
Histoire flagrante ce soir, on vous emmène dans les hôtels mythiques de la musique. Territoire fertile, fécond pour la création artistique, c'est aussi le lieu des excès où tout serait permis, ou presque. Le lieu de vie, le lieu de mort, tragique aussi. Assassinat, accident, overdose, histoire d'amour. Ce soir, nous descendons, à défaut de se faire descendre, dans trois hôtels mythiques. Le Lorraine Motel de Memphis, lieu emblématique des artistes du label Stax. Le Chelsea Hotel à New York. Et enfin, l'Hacienda Motel, miteux de la banlieue de LA.
Et en effet, donc on part tout de suite avec Sam Cooke. And the change is gonna come.
Too hard living, but I'm afraid to die. was up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I could last for long.
Chair de poule.
Ouais, alors, comme tu le présentais en préambule de cette rubrique, Bertrand, en effet, on est loin là des hôtels mythiques comme le Chelsea Hotel à New York. On est plutôt embarqué, je vous embarque plutôt pour Los Angeles et découvrir l'Hacienda Hotel, un motel de seconde zone qui fut nullement le spectacle de répétition, de concerts, d'écriture fantastique, prestigieuse. Mais tout simplement le spectacle, le lieu de la mort de Sam Cooke. On est donc 70 ans après les événements. Le drame reste encore plein de controverses et de suppositions, parce qu'à l'époque, Sam Cooke était une star, une idole parmi la communauté noire américaine, et que les circonstances de sa mort tragique sont à l'opposé de l'image fantasmée que la star américaine, alors âgée de 33 ans, avait cultivée. Donc pour comprendre un peu le choc provoqué par ce drame et les controverses qu'il a pu susciter, quelques mots sur la carrière de Sam Cooke. Considéré comme beaucoup comme le père spirituel de la soul, auteur, compositeur, interprète, Sam Cooke vient du gospel, assez classique, poussé par un père pasteur qui a favorisé les talents de son fils. Très vite repéré, il fera ses premiers pas dans le rhythm and blues, dans lequel il s'ennuie un peu. Et il va d'ailleurs envoyer balader pas mal de labels qui le produit. Et puis il va arriver chez RCA à l'âge de 30 ans. C'est là que son style devient novateur, avec un R&B beaucoup plus mélodique et un album en 1963, Night Beat, qui va surprendre par sa production musicale minimaliste, mais également par la voix de Sam Cooke, qui occupe définitivement le devant de la scène. Avec cet album, donc Sam Cooke pose les jalons d'un nouveau genre dont on lui attribuera aussi la postérité, la paternité, la soul. Quelques temps plus tard, donc nous sommes le 11 décembre 1964, la vie de Sam Cooke prendra brutalement fin à l'Hacienda Hotel Hollywood, hôtel assez miteux, à des années-lumière de l'aura du chanteur. Comment Sam Cooke a pu finir ainsi? Eh bien, pour comprendre, donc quelques heures avant le drame, Sam Cooke se retrouve au Martoni's, un bar-restaurant très chic situé dans le quartier Hollywood de Los Angeles, alors qu'il est en bonne compagnie avec un couple d'amis. Il emballe une jeune femme. Elle s'appelle Eliza Boyer, est âgée de 22 ans. Bon, il l'emballe pas non plus de manière très stylée, puisqu'il l'emballe avec une liasse de billets de 500 000 dollars en poche qu'il vient de récupérer de la série de derniers concerts qu'il vient d'achever. Et il n'emballe pas non plus n'importe qui, puisque Eliza Boyer est plutôt habituée au racolage. Le cadre étant posé, le crush d'un soir se retrouve à l'Hacienda Hotel. La suite est assez confuse. Sam Cooke débarquera dans le bureau de Bertha Franklin, la gérante de l'hôtel, bien alcoolisée, à moitié nue, à la recherche d'Eliza Boyer, qui serait tirée avec son fric, Cela se passe mal, l'état confus de Sam Cooke n'arrange rien, prise de panique. Bertha Franklin se saisit de son calibre 22 et lui tire à bout portant. Lors du procès qui a suivi, la justice a considéré que Bertha Franklin a abattu Sam Cooke en état de légitime défense. Mais ce drame suscitera de nombreuses controverses fantasmées parce que Sam Cooke était devenu une icône de la communauté noire américaine, mais également gendre idéal. Il ne pouvait pas mourir dans de telles circonstances. Ajoutez à cela que son engagement dans les droits civiques et à l'image de ce morceau que vous venez d'écouter, A Change Is Gonna Come, qui était l'une des premières chansons assez engagées, avec des messages politiques assez forts. Il en fallait pas plus pour que justement ce cocktail assez explosif génère pas mal de théories assez farfelues sur son assassinat, puisqu'on parlait, beaucoup de gens parlaient d'assassinat sans vouloir croire que c'était plutôt un drame assez banal que peut offrir les États-Unis.
Ça aurait fait un bel épisode de Six Feet Under.
Une histoire glauque, mais je pense que moi je vais rester pas très loin en termes musicaux. On va écouter Eddie Floyd avec Knock on Wood. Ensemble à Memphis, Tennessee, à la découverte du Lorraine Motel. C'est en 1945 hein, que les Bailey, un couple afro-américain, rachètent le Marquette Motel. En hommage à sa femme Lori et au standard jazz Sweet Lorraine, Walter Bailey y bâtit son établissement Lorraine Motel. Cet hôtel devient rapidement un safe space pour la population noire locale comme pour celle du reste du pays. L'établissement, il figure en bonne place dans le Negro Traveler's Green Book, ce guide qui référence les endroits pouvant accueillir en toute sécurité les Afro-Américains de passage dans les états Jim Crow du sud des États-Unis, soumis à ces lois ségrégationnistes de 1877 à 1964. Ray Charles, Sam Cooke, tiens donc, Cab Calloway, Count Basie, Aretha Franklin, Louis Armstrong, Nat King Cole, mais aussi Jackie Robinson ou encore Satchel Paige. Au fil des années, le Lorraine Motel il accueille les symboles de la créativité artistique et de l'excellence sportive noire américaine. L'établissement y constitue aussi un endroit spécial pour les artistes locaux, puisque situé à quelques kilomètres des locaux de Stax, le Lorraine Motel est un point de rencontre régulier pour les artistes noirs comme blancs du mythique label Soul. Hormis les locaux de Stax, le Lorraine Motel, c'est un des seuls endroits à Memphis où noirs et blancs peuvent se côtoyer sans risque. Des mots même du musicien Booker T, c'était une oasis pour nous. On y retrouve régulièrement ce dernier, mais aussi Isaac Hayes, Steve Cropper et les autres qui viennent s'y reposer, faire la fête, barboter dans la piscine et travailler aussi. Hein. Le lieu devient vite leur deuxième maison. Pas étonnant donc que deux des plus grands succès du label aient été composés au Lorraine Motel, à savoir In the Midnight Hour de Wilson Pickett et ce mythique Knock on Wood d'Eddie Floyd que nous venons d'écouter. Mais dans un sud qui s'accroche violemment aux derniers vestiges du ségrégationnisme, cette harmonie raciale utopique, elle va voler en éclats le 4 avril 68. C'est ce jour-là que Martin Luther King Jr. est assassiné au Lorraine Motel, justement. Venu soutenir le mouvement de grève des éboueurs de la ville, le révérend King sort sur la coursive du premier étage devant sa chambre, la 306. À 18h01, il est frappé d'une balle et tombe à terre. Il décédera une heure plus tard à l'hôpital. Cet assassinat, il marquera à jamais l'histoire des États-Unis. Son onde de choc se propagera aussi et bouleversera l'histoire de Stax comme celle de la famille Bailey. Lori Bailey, l'épouse de Walter Bailey, les propriétaires, elle s'occupait du standard téléphonique le jour de l'assassinat et profondément éprouvée par l'événement, elle fait un malaise et elle va s'allonger. Dans son sommeil, elle est victime d'une hémorragie cérébrale et ne se réveillera jamais. Elle décède le 9 avril, jour des funérailles de Dr. King. Quant à la grande famille Stax, cet événement tragique la confronte brutalement à la question raciale qu'elle arrivait à dépasser jusque-là. Elle qui était déjà fragilisée par la mort de son leader Otis Redding dans un accident d'avion 4 mois plus tôt, l'assassinat du Dr. King introduit une distance entre les artistes afro-américains et blancs du label, leur faisant prendre pleinement conscience des réalités parallèles qui leur sont imposées par le monde extérieur. Le Lorraine Motel, il amorce son déclin, mais Walter Bailey continuera 20 ans encore. À la fin des années 80, l'établissement est en ruine et menacé de destruction, mais la mobilisation locale permet de lever des fonds et d'obtenir le soutien de l'État pour préserver ce lieu si important pour la mémoire du pays. Le Lorraine Motel est intégré à l'ensemble des bâtiments qui deviendra et qui est encore aujourd'hui le National Civil Rights Museum.
C'est assez glauque comme émission. Moi, je pensais être le seul à parler d'assassinat, de mort.
Ouais,
et
mais
tout,
moi, mais... c'est historique. Toi, c'est ouais. Des motels miteux. Moi, c'est Martin Luther King. Voilà.
Il y a du fait divers et puis il y a un peu d'histoire.
Moi, je suis juste seconde zone, c'est ça. T'es Champions League et moi, je suis seconde zone.
C'est ça. Alors moi, je vais vous emmener à New York et on va parler d'amour et avec Leonard Cohen et Chelsea Hotel.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I
all of that jiving around.
C'est l'histoire d'une nuit d'amour dans la chambre 424 du Chelsea Hotel à New York avec Leonard Cohen et Janis Joplin. Je suis très love ce soir. J'aurais pu vous parler du meurtre de Nancy, la petite amie de Sid Vicious, des Sex Pistols, poignardée dans la salle de bain de la chambre 100 en 1978. Ou alors du suicide de Dylan Thomas en 53 ou du meurtre du photographe Bill Ménard en 74. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Le Chelsea Hotel est connu pour avoir été le repère de nombreux artistes qui ont fait escale quelques jours, mois ou même années. L'hôtel a toujours été là pour accueillir les âmes en peine, les artistes torturés et rejetés. Il est le berceau d'un grand nombre d'œuvres de la contre-culture américaine. C'est ici que Kerouac donna naissance à son roman Sur la route, fondateur de la Beat Generation, et puis tout un tas d'artistes, d'Andy Warhol à Bob Dylan, en passant par William Burroughs, Tom Waits, Jimi Hendrix se sont passés par là. Donc nous sommes au printemps 68, et à cette époque, le Chelsea Hotel était plus célèbre que Leonard Cohen. Mais c'était comme ça n'allait pas trop fort pour lui. Il était à New York, il savait qu'au Chelsea Hotel, il allait pouvoir rencontrer des gens qui lui ressemblaient. Donc il s'est dit, je vais aller prendre une chambre là-bas. Et puis c'était un soir où c'était un peu la loose. Il est allé manger un cheeseburger, il était tout seul. Bref, il sort, après il se fait un petit bar. Il rentre quand même à 3h du matin.
Oh, il sort quand même, quoi.
Ah oui, enfin, c'est pas qu'un petit bar.
Donc du coup, il sort à 3h du matin et puis en rentrant à l'hôtel, il croise une jeune femme qu'il connaît qui s'appelle Janis Joplin. Et donc il l'emmène, il se croise dans l'ascenseur. Donc l'ascenseur du Chelsea Hotel, voilà, c'est un ascenseur un peu délabré. Pas facile à faire fonctionner et donc il arrive quand même à maîtriser, à partir au quatrième étage où chacun avait sa chambre, ils étaient tous les deux au quatrième étage et donc il commence à échanger avec elle et il lui demande si elle cherche quelqu'un ce soir et donc elle se démonte pas parce que elle est assez pushy comme fille, assez libérée, Janis Joplin. Elle dit oui, je cherche Chris Christopherson. Donc c'est un autre chanteur un peu plus connu que Leonard Cohen. Et donc elle avait des vues sur lui. Et puis bah, lui, il se démonte pas, il lui rétorque, petite dame, vous avez de la chance, je suis Chris Christopherson. Donc une fois arrivé au quatrième, bah, c'était dans la poche et voilà.
Et ça marche ça?
Et ça a marché parce que voilà, il l'a fait rire et donc ils ont une nuit ensemble et ça n'a pas duré très longtemps. Et c'est après le décès tragique de Janis Joplin en 70, puisqu'elle est morte, elle fait partie du club des 27, elle est morte à 27 ans, que Leonard Cohen va repenser à cette nuit de 68 et c'est là qu'il va écrire en fait cette chanson. Quelques temps après, il a commencé sur une serviette de cocktail dans un bar de Miami avant de la continuer dans un vol transatlantique vers l'Irlande. Et le texte parle de Janis comme une femme puissante, libre, pleine de désir et de vulnérabilité. Et donc elle lui avait d'ailleurs fait remarquer que lui aussi il était moche comme elle, qu'il avait un physique peu attrayant. Mais bon, c'était quand même une nuit d'amour.
Est-ce qu'il avait une chemise avec des cœurs dessus? Parce que Bertrand est
comme Bertrand.
très belle
c'est
chemise
vrai,
ce
je
soir.
Suis très love ce soir.
C'est ça, mais alors on a été un peu glauque ce soir, mais on essaiera d'être un peu plus pléchu la prochaine fois, mais je pense que c'est des thèmes bien intéressants tout ça.
C'est ça, donc la prochaine fois...
La prochaine c'est quand du coup?
C'est le 27 juin, samedi 27 juin à 21h.
Tout à fait, pour la dernière de la saison, on aura des petites vacances bien méritées, on l'espère, après pour l'été.
Et n'oubliez pas la soirée au Vice Versa.
Tout à fait, le vendredi 5 juin, 23h30, 4h30 du matin. Alors, on vous attend nombreux et on vous dit au mois prochain.
Voilà, et on vous laisse avec la suite des programmes de Radio Campus Paris.